Le cercle rouge de Edgar Wallace. Chapitre 30. Pour faire taire Monsieur Froyant. Le voyage en France d'Harvey Froyant n'avait pas échappé à l'attention de Derrick Yell et de l'inspecteur Parr. Le cercle rouge en devait également être averti, si, du moins, le télégramme expédié par Talia Drummond avait atteint son destinataire. Ce fut précisément au sujet de ces messages envoyés régulièrement par Talia à un inconnu que Derrick Yell se rendit à la préfecture de police le soir même du triomphant retour de M. Froyant. En arrivant à son bureau, Parr trouva Yell en train de faire démonstration de ses facultés divinatoires à un groupe d'agents. Il était vraiment étonnant. D'une simple bague que lui confia un inspecteur, il put dire à son possesseur abasourdi non seulement toute l'histoire connue de sa vie, mais encore certains secrets qu'il croyait être seul à posséder. Dès que Parr fut là, son secrétaire lui remit une enveloppe cachetée. Il jeta un coup d'œil à l'adresse écrite à la machine, puis la posa sur la main ouverte de Yell. « Dites-moi qui m'envoie cela !» dit-il en souriant. « C'est un homme très petit qui porte une ridicule barbe jaune. Il parle du nez et il est boutiquier. » Parr sourit plus largement. Yell reprit. « Du reste, il n'y a ici aucune psychométrie. Il se trouve que je connais bien M. Johnson de Mildred Street. » Il éclata de rire à la vue de la stupéfaction de Parr. Et lorsqu'ils furent seuls, il expliqua. « J'ai su que vous aviez découvert l'endroit où l'on envoyait tous les messages destinés au Cercle Rouge. Mais moi, je le connaissais depuis longtemps, et je lisais toujours toute cette correspondance. Monsieur Johnson m'a averti que vous étiez venu dans ces parages, et je l'ai prié de vous fournir ses explications par écrit. C'est ce que vous trouverez dans cette enveloppe.
Ainsi, vous avez toujours été au courant.
Oui. Je sais que les lettres et télégrammes destinés au Cercle Rouge étaient adressés à ce Johnson, et que chaque après-midi, un petit garçon venait les prendre. C'est humiliant pour moi, mais j'avoue que je n'ai pas pu découvrir qui vient les voler dans la poche de ce gamin.
Les voler dans sa poche ?
Yell paraissait jouir immensément de confondre Parr avec tout ce mystère. Eh oui, poursuivit-il, ce petit garçon a pour instruction de mettre les plis dans sa poche, d'aller ensuite se promener dans High Street, qui est une artère très animée. Ce faisant, quelqu'un lui prend le contenu de sa poche sans qu'il ait jamais pu s'en apercevoir. Le chef de la sûreté s'assit et se frotta vigoureusement le menton.
« Vous êtes un homme étonnant, »
dit-il.
« Et qu'avez-vous découvert d'autre ?»«
Une chose que je soupçonnais depuis longtemps. Talia Drummond est en communication constante avec le Cercle Rouge, et elle lui a fourni toutes les informations qu'elle a pu se procurer. » Parr secoua la tête.
« Et qu'allez-vous faire maintenant ?»
« Je vous ai toujours dit, » répliqua Yell, « que nous arriverions par elle au Cercle Rouge. Et je suis convaincu que tôt ou tard, cette prédiction se réalisera. Il y a maintenant près de 2 mois que j'ai décidé ce brave Johnson à me laisser jeter quelques coups d'œil sur la correspondance du Cercle Rouge. Je me suis donné pour un policier officiel auprès de cet inoffensif boutiquier. J'espère que vous ne m'en voudrez pas.
Au contraire, je pense très souvent que vous devriez être un officiel. Ainsi, Talia Drummond communique régulièrement avec le Cercle Rouge.
Je vais la garder encore à mon service, naturellement.
Je préfère la voir sous la main. Elle sera moins dangereuse. Et savez-vous pourquoi M. Froyant est allé en France ?
Son interlocuteur haussa les épaules.
Pour ses affaires personnelles, je suppose. Il en a beaucoup à l'étranger. Il possède de grands vignobles en Champagne.
Je pensais que vous le saviez. Le chef de la sûreté fit un signe affirmatif.
Il y eut un long silence. Chacun des deux interlocuteurs suivait le cours de ses propres pensées. Parr se demandait spécialement pourquoi M. Froyant était allé à Toulouse.
« Comment avez-vous su qu'il est allé à Toulouse ?»
demanda tout à coup Yel. Cette question était si inattendue et correspondait si bien avec la réelle et présente préoccupation de Parr que ce dernier en sursauta violemment.
« Ciel ! » s'écria-t-il. « En êtes-vous à pouvoir lire la pensée d'autrui ?»«
Quelquefois, » fit Yel sérieusement.
« Moi, je croyais qu'il demeurerait à Paris. »«
C'est à Toulouse qu'il est allé, »
répondit brièvement Parr, sans expliquer comment il l'avait appris. Mais rien peut-être de ce que Yel avait fait jusqu'alors, aucune preuve de ses dons exceptionnels et presque surnaturels, n'avait autant déconcerté le placide inspecteur. Il restait effrayé maintenant, après avoir senti sa secrète pensée ainsi pénétrée, lorsque la sonnerie du téléphone retentit. C'était M. Froyant.
« Est-ce vous, Parr ?
Je voudrais vous voir. Voulez-vous venir chez moi avec M. Yel ? J'ai d'importantes communications à vous faire. »
Parr raccrocha le récepteur d'un geste résolu.
« Que diable peut-il bien avoir appris ?» se dit-il tout haut.
Et dans les yeux de Derrick Yel, qui n'avait cessé de rester attaché à tous les gestes de Parr, s'alluma un instant une étrange lueur. Talia Drummond venait d'achever son simple repas du soir et s'occupait prosaïquement à raccommoder une paire de bas. Mais cette tâche donnait un trop libre cours à ses pensées qu'elle eût voulu pouvoir détourner entièrement de leur objet. Oui, il lui était de plus en plus difficile de ne pas penser à Jack Beardmore. Difficile et même douloureux. Aussi, mettant de côté fil et aiguille, se décida-t-elle à chercher une occupation plus absorbante, lorsque la sonnette de la porte d'entrée retentit. Elle alla ouvrir et reçut des mains d'un facteur un petit paquet de la forme et de la grandeur d'une boîte de chaussures. L'adresse était écrite à la main, mais en caractère d'imprimerie. Et la jeune fille eut un frémissement en la voyant. La porte refermée, elle revint vite dans son boudoir et coupa les ficelles du petit colis. Le papier défait, elle aperçut la lettre émanant du Cercle Rouge qui expliquait l'envoi. Elle lut: Vous connaissez bien la disposition intérieure de la maison de Froyant. Il y a un passage direct entre le jardin et le caveau voûté qui se trouve sous son bureau. Allez-y immédiatement en emportant avec vous
ce qui se trouve dans cette boîte. Attendez dans le caveau jusqu'à ce que je vous donne de nouvelles instructions. » Talia examina le contenu du carton. Il y avait d'abord un long gant de cuir qui lui arrivait au coude. C'était un gant d'homme et de main gauche. À part cela, il n'y avait qu'un poignard à garde pleine, très aiguisé. Un long temps, elle considéra l'arme et le gant, puis alla au téléphone, indiqua un numéro, attendit un bon moment, jusqu'à ce qu'enfin on l'avertit que le numéro demandé ne répondait pas. Elle regarda sa montre. Il était plus de 8h30 et elle n'avait pas de temps à perdre. Elle mit le gant et le poignard dans un grand sac à main, endossa un long manteau et sortit. Une demi-heure plus tard, Derrick yelle et part entrer chez M. Froyant. Le hall était brillamment éclairé et de toutes les fenêtres sortaient des flots de clarté. Cela contrastait singulièrement avec les habitudes économiques du maître de Séan. Et Yel en fut frappé. D'habitude, il n'y avait qu'une petite lampe dans le hall, et toutes les chambres non occupées étaient plongées dans l'obscurité. Le bureau de M. Froyant s'ouvrait directement sur le hall et était également très éclairé. Le maître de la maison reçut ses visiteurs avec un sourire de satisfaction qui le rajeunissait. « Sœurs, leur dit-il, ce dont j'ai à vous faire part va sans doute vous surprendre. Je viens justement de demander le préfet au téléphone, » ajouta-t-il en regardant spécialement Parr. « Parce que, vous comprenez, en un cas pareil, il faut prendre ses précautions. Il pourrait vous arriver malheur au sortir d'ici. Et d'autre part, il n'est pas bon de mettre trop de monde dans notre secret. Voulez-vous quitter vos pardessus? Ce que j'ai à vous raconter prendra un certain temps. » À ce moment, la sonnerie du téléphone retentit, et M. Froyant alla à l'appareil qui se trouvait sur la table. « Oui, oui, monsieur le préfet, » dit-il. « J'aurai une très importante communication à vous faire. Puis-je vous rappeler dans une minute? Vous serez encore là? Très bien, merci beaucoup. À tout à l'heure. » Il raccrocha et parut méditer une seconde. « Je n'ai pas voulu parler au préfet devant vous, » dit-il enfin. « D'abord parce que c'est à lui qu'il appartient d'être renseigné le premier. Et ensuite, parce que je ne veux pas me priver du plaisir de vous entretenir longuement des choses inattendues que j'ai apprises. Me permettez-vous donc de parler seul un moment avec le préfet ?»« Certainement, » dit Parr en sortant le premier de la chambre. Cependant, Yel parut hésiter. « Vos révélations ont-elles trait au cercle rouge ?» demanda-t-il.
« Vous verrez, »
répondit M. Froyant.
« Accordez-moi 5 minutes, et vous aurez votre part d'émotion. »
Derrick Yel se mit à rire, et Parr, qui était déjà dans le vestibule, sourit en l'entendant.
« Il m'en faut beaucoup pour m'émouvoir, »
dit encore Yel, qui sortit à son tour. Le détective se retourna au moment de fermer la porte et ajouta
« Après vos révélations, monsieur Froyant, je pourrais vous en faire à mon tour sur votre ex-employé, la jeune Drummond. Je sais qu'elle ne vous intéresse plus, mais le fait dont je vous parlerai vous étonnera tout de même quelque peu. »
Parr le vit sourire et crut que Froyant lui avait rétorqué quelques plaisanteries. Yel referma doucement la porte.
Je me demande ce qu'il a de si extraordinaire à nous révéler, dit-il à part.
Les deux hommes passèrent au salon, dont le grand lustre était également allumé.
Que de lumière ! S'écria Yel.
C'est bien inhabituel, n'est-ce pas ?
Ajouta-t-il à l'adresse du premier valet, Styr, qu'il connaissait.
Oui, sœur, fit l'homme. Monsieur Froyant n'a pas l'habitude de gaspiller l'électricité, mais il m'a dit qu'il voulait que tout soit éclairé ce soir, pour parer à toute éventualité. Cela m'a fort surpris. Il a aussi deux revolvers chargés dans ses poches. De sa part, c'est étonnant.
Comment savez-vous qu'il a deux revolvers sur lui ?
Demanda vivement Parr.
Parce que c'est moi qui les lui ai chargés. J'ai été soldat et je m'y connais. Un de ces revolvers est à moi.
Derrick Yell se mit à siffloter et dit
« On dirait qu'il s'attend à ce que ces révélations lui procurent quelques visites.
Avez-vous des hommes à proximité, Parr ?
Oui, j'ai deux agents dans la rue. »
Parr et Yel ne pouvaient entendre la voix de Froyant, qui devait être en train de téléphoner, car les cloisons étaient épaisses. Il y avait déjà plus d'un quart d'heure qu'ils avaient quitté le bureau, et M. Froyant ne les rappelait pas. Yel devenait impatient. Lorsqu'il y eut une demi-heure, le détective privé revint au hall et demanda au premier valet d'aller voir si M. Froyant avait fini de téléphoner.
« Je ne puis pas l'interrompre, » dit l'homme. « Nous avons l'ordre de ne jamais pénétrer dans son bureau sans être sonné. Mais peut-être l'un de vous pourrait-il y aller. »
Parr se trouvait près de la porte du bureau. Il l'ouvrit et, sous les lumières aveuglantes de toutes les lampes allumées, il ne douta pas une seconde de ce qui était arrivé dès que son regard se fut arrêté sur la figure livide du maître de la maison. Monsieur Froyant était mort. Il était à demi assis dans son fauteuil. De sa poitrine sortait la garde en forme de coupe d'un fort poignard. Sur la table se trouvait un long gant de cuir taché de sang. Au cri de Parr, Yel se précipita dans la pièce. Les deux hommes se regardèrent un instant sans pouvoir proférer un mot. Parr parla le premier.
« Appelez mes hommes, » dit-il. « Que personne ne sorte de la maison. Dites au premier valet de rassembler tous les domestiques à la cuisine. »
Il se mit à inspecter la chambre en détail. Devant les grandes fenêtres qui donnaient sur le petit jardin, derrière l'immeuble pendaient de lourds rideaux de velours. Il les écarta. Les volets étaient parfaitement clos. Comment donc Harvey Froyant avait-il été tué ? De quel côté le meurtrier l'avait-il approché ? Par derrière ? Le poignard semblait avoir été plongé de haut dans la poitrine de l'infortuné. Et pourquoi ce gant ? Le chef de la sûreté l'examina longuement. C'était un long gant de chauffeur, très usé. Il laissa les choses en l'état et se hâta de téléphoner au préfet. Celui-ci attendait encore l'appel que lui avait annoncé M. Froyant.
« Il ne vous a donc pas téléphoné de nouveau ?» demanda Parr.
« Non. Qu'est-il arrivé ?»
Le chef de la sûreté le lui expliqua en peu de mots et écouta sans broncher les reproches véhéments que lui adressa son chef. Puis, il raccrocha le récepteur et sortit dans le hall où l'attendaient ses agents.
« Je vais fouiller toute la maison, » dit-il.
Il redescendit au bout d'une demi-heure.
« Eh bien ?»
lui demanda Yel vivement. Par secoua la tête.
« Rien, »
fit-il.
« Il n'y a personne ici qui n'ait pas le droit d'y être. »
« Mais comment est-on entré dans le bureau ? Il y a toujours eu quelqu'un dans le hall, sauf au moment où le valet Stier est venu nous parler au salon. »
« En effet. »«
Il y a peut-être une trappe dans le parquet, » suggéra Yel.
« Allons donc. Une trappe dans le plancher, en plein Londres. »
Néanmoins, on souleva le tapis et une étroite trappe apparut. Le premier valet expliqua que, pendant la guerre, M. Froyant avait fait aménager un petit caveau voûté sous son cabinet de travail. Pour pouvoir s'y rendre plus vite en cas d'alerte, il avait fait faire cette trappe. Parr se fit apporter une bougie et, la trappe étant soulevée, descendit dans le caveau. Celui-ci consistait en une simple et petite chambre carrée. Dans une paroi se trouvait une porte fermée à clé. En fouillant les poches du maître de la maison, on en trouva la clé personnelle. Parr ouvrit la porte et constata qu'elle donnait sur une pelouse commune à plusieurs maisons voisines et qu'aucune barrière ne séparait des rues avoisinantes.
Il est donc parfaitement possible d'être entré ici par les pelouses,
observa Yel.
Et il faut supposer que l'assassin est venu et est reparti par la trappe.
Se disant, Yel, descendu à son tour dans le caveau, projetait autour de lui la lumière de sa lampe électrique. De là, il passa à l'extérieur. Tout à coup, il se pencha.
L'empreinte d'une chaussure,
dit-il.
Voyez, c'est la marque d'un soulier sur la terre humide.
C'était une chaussure de femme. Parr vint voir à son tour.
Il n'y a pas de doute, dit-il. Et cette marque est toute récente.
Il regarda de plus près et soudain se rejeta en arrière, en poussant un grand cri.
« Mon Dieu !»
fit-il.
« Quelle abominable affaire !»
Il avait reconnu l'empreinte des chaussures de Talia Drummond.